RFI 23h30, ici à Paris, 2h30 à Port-Louis.
Afrique Soir.
C'est notre prix littéraire à nous, notre plume de l'actualité africaine que vous retrouvez pour la dernière édition d'Afrique Soir. Voilà Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Quel challenge. Merci beaucoup Martin. Bonsoir à vous. 1 million d'électeurs conviés aux urnes dimanche pour des législatives à Maurice. La campagne électorale s'est achevée ce soir avec les tout derniers meetings. Relancer l'économie du pays et surtout le marché du diamant, c'est la priorité du nouveau président du Botswana. Il a prêté serment aujourd'hui, première alternance politique depuis l'indépendance de ce pays d'Afrique australe il y a 60 ans. La récente visite à Dakar d'une délégation du CIO, une visite dans la perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse prévue en octobre 2026. Et puis le foot algérien en deuil, Rachid Mekloufi, légende du football algérien, est mort. Il était aussi le symbole au tournant des années 60 de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Nous irons également dans cette émission au théâtre à Abidjan et nous écouterons l'une des plus belles voix du jazz tchadien, Abdoulaye Derket. À Maurice, la campagne électorale s'est achevée ce soir avant les législatives de dimanche. 1 million d'électeurs sont attendus aux urnes dans les 21 circonscriptions de l'île. Et la compétition a été intense entre les deux grandes coalitions. D'un côté, l'Alliance du Peuple, majorité sortante, et de l'autre, l'Alliance du Changement. Et ce soir, les deux blocs ont effectué leur dernière démonstration de force pour tenter de rallier les électeurs indécis. Abdourallah et Rally.
Les deux principales coalitions en lice effectuent un dernier forcing pour mobiliser leurs partisans. Maurice est animé ce soir par des défilés de voitures et motos, tandis que les candidats tiennent leur dernière réunion. Après 6 semaines d'une campagne intense, le calme reviendra demain. Cette élection a été marquée par des événements sans précédent dans l'histoire démocratique du pays. Il y a une semaine, les autorités ont suspendu les réseaux sociaux, invoquant la sécurité nationale, mais ont fait marche arrière après 24 heures face à l'indignation générale. Autre fait inédit, la révélation d'un programme d'écoute téléphonique ciblant des journalistes, politiques et personnalités influentes. Un informateur anonyme a même diffusé ses enregistrements sur les réseaux sociaux, exposant l'ingérence du gouvernement dans des institutions clés, de la police à la justice. Ces révélations embarrassent la majorité sortante, l'Alliance du Peuple, menée par le Premier ministre Pravin Jugnauth, face à un opposant de taille, Navin Ramgoolam, leader de l'Alliance du Changement.
Abdoulaye Rally de Port-Louis à Maurice. Le Botswana a vécu une journée historique. Le nouveau président Duma Boko, âgé de 54 ans, issu d'une alliance de partis de gauche, a prêté serment aujourd'hui au stade Gaborone, une cérémonie d'investiture après une victoire éclatante aux élections générales face au parti qui est au pouvoir depuis 60 ans. Et les attentes dans ce petit pays d'Afrique australe sont immenses. La priorité du nouveau président, c'est de relancer une économie plombée par la baisse du cours du diamant. Tanguy Bihan.
Le quart de la population au chômage, des inégalités parmi les plus fortes du monde, des finances publiques dans un état déplorable, voilà la situation dont hérite le nouveau président Duma Boko. L'effondrement du cours du diamant brut, concurrencé sur le marché mondial par le diamant de synthèse, a plongé l'économie du pays dans une crise profonde. Les recettes d'exportation ont en effet fortement baissé ces dernières années. Pour résumer son programme, Duma Boko a déclaré qu'il fallait protéger la poule aux œufs d'or tout en poursuivant la diversification de l'économie. Une de ses annonces phares est de vouloir augmenter la participation de l'État dans l'entreprise minière De Beers en la menant au-delà des 50%. La crise est le meilleur moment pour faire des acquisitions, a-t-il dit en substance. Ses autres grandes promesses sont d'ordre social. Augmenter le salaire minimum, créer des milliers d'emplois et de logements, baisser les prix de l'eau et de l'électricité, mettre en place une assurance maladie universelle. Mais nombre d'observateurs s'interrogent sur leur faisabilité. Comment financer un tel programme alors que l'argent ne rentre plus ?
RFI N'Djamena, 100.2 FM.
Le président Mahamat Idriss Déby pourrait retirer son pays de la force multilatérale mixte. Elle est composée de 5 pays et elle est chargée de sécuriser la région du lac Tchad. Le chef de l'État tchadien déplore le manque de solidarité des pays voisins et notamment du Nigeria dans la lutte contre les groupes djihadistes. Il a lancé une contre-offensive dans la zone du lac Tchad 10 jours après une attaque de Boko Haram dans laquelle une quarantaine de militaires tchadiens ont été tués. Comment expliquer ce manque de coopération du Nigeria? Ezra Zikoumana a interrogé le chercheur au CNRS et spécialiste de Boko Haram, Vincent Fouché.
ça fait longtemps, hein, c'est que le Tchad est quand même assez frustré de l'engagement et de la performance de l'armée nigériane, hein, et considère qu'au fond, le Nigeria, qui est un peu l'origine du problème, est pas assez engagé pour son règlement. Mais il faut dire que le problème, c'est plus une menace existentielle pour le Tchad que pour le Nigeria, cette affaire de Boko Haram. Au fond, pour le Nigeria, c'est un problème qui est un peu contenu dans le coin nord-est du pays, dans les zones rurales enclavées. Pour le Tchad, le problème Boko Haram, il est très embêtant parce que ça menace le nord du Cameroun, dans lequel passe quelque chose qui est vraiment l'aorte, hein, l'artère principale de l'économie tchadienne, puisque c'est là qu'il y a l'accès à la mer du Tchad, il se fait par cette zone-là. Donc pour le Tchad, on est vraiment face à un enjeu vital, et ce qui n'est pas le cas au fond pour les autres pays de la zone. Et donc le Tchad, au début, il était assez prudent, on ne voulait pas trop s'en mêler. Bon, assez vite, en 2015, on a vu le Tchad extrêmement actif dans la lutte contre Boko Haram. Mais c'est vrai que quand on parle des officiels tchadiens, pardon, ils ne cachent pas leur frustration face au fait que ce problème ne se règle pas.
Le Tchad hausse le ton face au Soudan et accuse son voisin de déstabilisation depuis le début de la guerre entre l'armée régulière soudanaise et les paramilitaires des FSR. Khartoum accuse N'Djamena de livrer des armes aux paramilitaires via son allié, les Émirats Arabes Unis. Des accusations rejetées par les autorités tchadiennes qui pointent du doigt à leur tour la responsabilité du Soudan dans le financement de groupes terroristes qui opèrent dans la sous-région. Dans son communiqué, la diplomatie tchadienne rappelle que la dernière rébellion a causé la mort du maréchal Idriss Déby, le père de l'actuel chef de l'État, et insiste sur le fait que N'Djamena n'est en aucune façon, je cite, « partie prenante au conflit en cours ». Au Soudan. On en vient à la politique en Côte d'Ivoire. Le FPI, le Front Populaire Ivoirien, tient son 5e congrès ordinaire. C'est à Yamoussoukro. Près de 6000 délégués y participent. L'objectif principal est de désigner le candidat pour la présidentielle de 2025. Et son président, Pascal Affine-Guessant, est donné favori. Il s'est exprimé aujourd'hui pour notamment remobiliser les partis de gauche RFI Abidjan Bintadiane.
Face à ses militants, Pascal Affine-Guessant encourage le président sortant Alassane Ouattara à renoncer à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2025. Il faut qu'il renonce, dit-il, pour ne pas plonger notre pays dans une crise. Il ne faut pas, poursuit-il, qu'il écoute les laudateurs qui gravitent autour de lui et qui appellent à un quatrième mandat. Fin de citation. Parmi les invités qui ont répondu présent à ce congrès figurait le mouvement des générations capables, dirigé par l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo et le COGEP, dirigé par Charles Blégoudé. Ce dernier a appelé à l'unité des formations de gauche en vue des échéances électorales. Ce congrès du FPI vise à renouveler les instances du parti, à remobiliser les troupes suite aux échecs aux élections locales de septembre 2023 et surtout à désigner le candidat du parti pour la présidentielle de l'année prochaine. Pascal Affine-Guessant est donné favori malgré l'existence d'un courant dissident formé tout récemment et qui conteste son leadership. Plusieurs cadres critiquent en effet un déni de démocratie interne et un simulacre de congrès, selon les mots d'Issiaka Sangaré à la tête du mouvement Démocratie et Valeurs. Bintadiane Abidjan, RFI.
Et toujours en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante prolonge d'une semaine la période de recensement initialement prévue jusqu'au 10 novembre. Ce recensement vise à étendre le corps électoral. Il ne compte que 8 millions d'inscrits sur 12 500 000 citoyens en âge de voter. La période a été jugée trop courte par l'opposition. La CUI la prolonge donc jusqu'au 17 novembre prochain. Direction la Chine, on change complètement de continent. À Shanghai, la foire internationale de l'importation se tient jusqu'à dimanche et la zone d'exposition des produits alimentaires a été agrandie pour permettre aux pays d'Afrique de présenter une large gamme de produits agricoles. Le Bénin était l'invité d'honneur lors de la précédente édition et cette année, sa présence à Shanghai confirme l'intérêt du marché chinois pour les produits du pays. Cléa Broders, envoyée spéciale à Shanghai.
Au pavillon du Bénin, on trouve le produit phare, l'ananas pain de sucre, mais également la noix de cajou, du miel, de la karité ou du soja. Abdelaziz Bouraïma en charge de la promotion des exportations à l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin.
Les consommateurs chinois sont relativement friands de produits tropicaux tels que les nôtres. La demande est extrêmement importante. Ça représente une opportunité intéressante pour nous.
Les nouvelles routes de la soie commencent à atteindre le pays et avec elles, les Green Lanes, la simplification des procédures douanières visant à améliorer l'efficacité commerciale entre la Chine et les pays africains.
Les facilitations dans les procédures d'exportation vers la Chine, c'est un sujet qui est constant. On va dire qu'aujourd'hui, la Chine fait partie des pays vers lesquels nous exportons. Nous avons notamment un certain nombre d'accords préférentiels pour certains produits d'exportation, notamment l'ananas dont je parlais et le soja.
Aujourd'hui, aucun doute, la Chine est l'un des marchés les plus prometteurs pour le Bénin.
Question de taille déjà, de proportion. Mais évidemment, le marché chinois a la particularité, en comparaison aux autres marchés européens notamment, d'être également un marché extrêmement rémunérateur, mais un marché très demandeur. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment en train d'essayer de dynamiser nos exportations vers la Chine.
Pour Abdelaziz Bourahima, si les relations historiques avec certains marchés vont perdurer, la Chine est toutefois devenue une cible prioritaire. Claire Broderst, Shanghai, RFI.
L'Algérie dément des informations erronées et totalement infondées selon lesquelles elle aurait décidé des mesures restrictives à l'encontre des échanges avec la France. Dans un contexte de tensions diplomatiques accrues entre Alger et Paris, les entreprises françaises et algériennes partenaires ont tout de même eu des sueurs froides cette semaine puisque les banques avaient gelé les opérations d'import-export entre les deux pays dans l'attente d'un écrit officiel des autorités algériennes. Les explications de Claire Fage.
Le commerce entre l'Algérie et la France allait-il être vraiment bloqué? L'inquiétude était à son comble cette semaine à la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française à Alger, comme le raconte son président Michel Bizac.
Depuis mardi, c'est très simple, il y avait une rumeur qui disait que toutes les opérations d'import-export étaient suspendues et les banques, par mesure de précaution, ne faisaient plus d'opérations dans l'attente d'une réaction officielle. Donc cette rumeur a enflé. Elle a inquiété des deux côtés de la Méditerranée. On a vécu 48 heures de flou. Ça a été vraiment un choc.
Soulagement pour les opérateurs économiques, le démenti du gouvernement algérien est tombé jeudi soir. Indispensable, selon le juriste Majid Boudène, pour ne pas laisser le climat des affaires se dégrader.
Quand il y a des rumeurs, il faut les démentir rapidement et il faut donner les preuves que le démenti est réel. Sinon, ça crée un climat. Et le climat peut être aussi entretenu de façon artificielle, justement pour créer de ces entraves. Et des fois, le climat peut être aussi entravant que la mesure elle-même.
Un climat plus instable depuis le net refroidissement diplomatique entre Alger et Paris pour les quelques 6000 entreprises françaises qui exportent ou ont investi en Algérie.
Claire Fage, 23h42 ici à Paris, 22h42 en temps universel. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir dans la deuxième partie d'émission. Nous irons au théâtre et puis nous écouterons de la musique. Mais avant cela, place au sport. La radio algérienne annonçait ce vendredi soir la mort de Rachid Mekloufi, légende du foot algérien. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans. Rachid Mekloufi, symbole au tournant des années 60 de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Son portrait signé Frédéric Suteau.
Rachid Mekloufi n'avait que 18 ans quand les recruteurs de l'AS Saint-Étienne l'ont repéré et sont venus le convaincre à Sétif de quitter sa terre natale. Il a rejoint les Verts alors que débutait la guerre d'Algérie. Il est vite devenu l'un des joueurs majeurs du championnat de France. Des buts, beaucoup de buts et des titres avec Saint-Étienne. Des premières sélections en équipe de France. La voix de Rachid Mekloufi, buteur et magicien sur le terrain, était toute tracée. Une carrière dorée l'attendait. Mais au printemps 1958, il a quitté soudainement la France avec d'autres joueurs venant d'autres clubs pour rejoindre l'équipe mise sur pied par le Front de Libération Nationale. Cette équipe du FLN a alors sillonné le monde pendant 4 ans en disputant des matchs de gala, plus de 80 en tout, un moyen pacifique de promouvoir la cause de l'indépendance de l'Algérie pendant que la guerre faisait rage. En 1962, l'Algérie obtient son indépendance, l'équipe du FLN se dissout et Rachid Mekloufi, héros de tout un peuple devenu international algérien, finit par revenir à Saint-Étienne. Il marquera les deux buts de la finale de la Coupe de France remportée en 1968 par les Verts.
Frédéric Suteau, le foot encore, c'est demain que commence au Maroc la 4e édition de la Ligue féminine des champions. 8 équipes sont en lice. Qui pour succéder aux Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns? En tout cas, les organisateurs espèrent attirer un maximum de public et surtout des spectatrices et mettre un terme à la polémique née d'une campagne lancée en ligne pour dissuader les femmes de se rendre au stade. Son slogan à cette campagne, non aux femmes en tribune, garde ta sœur à la maison. Une initiative très critiquée par les organisations féminines et qui n'impressionne pas ses supportrices de la sélection nationale récemment rassemblée à Casablanca. C'est un reportage de Mathias Reynal.
Ce soir-là, les Lions de l'Atlas affrontent la Tanzanie en match amical et devant l'entrée du stade, la campagne contre les femmes fait réagir.
Non, on est contre. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On va continuer à aller au stade. Impossible de ne pas y aller, surtout pour moi.
Sarah, 16 ans, ne rate pas un match du Wydad. Elle va régulièrement supporter son équipe favorite.
Même si des fois il y a du harcèlement, par exemple des gars peuvent te déranger. Pour éviter ça, je prends un ticket en tribune latérale à 250 dirhams. Là, tu peux regarder le match dans de très bonnes conditions.
Jamila, la quarantaine, est venue supporter sa cousine qui joue en équipe nationale.
Regarder un match dans un stade, c'est mieux qu'à la télévision ou à la maison. Moi, j'aime beaucoup venir ici. N'importe quelle femme peut le faire, c'est son droit. C'est un bon endroit, accessible à tous, c'est sécurisé. Il y a les forces de l'ordre.
Cette campagne virale est à rebours des changements constatés ces dernières années au Maroc, alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les stades, notamment depuis l'épopée de la sélection à la Coupe du Monde 2022. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et on suivra cette compétition avec la plus grande attention. Le sport, encore plus que 721 jours, c'est très précis, moins de 2 ans avant les Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar. Ils sont prévus en octobre 2026, mais déjà, tout s'accélère. Et c'est dans cette perspective qu'une délégation du CIO, le Comité International Olympique, s'est rendue dans la capitale sénégalaise ces derniers jours. Et c'est un satisfaici qui est adressé aux organisateurs à Dakar. Le reportage de Gwenda Lavina.
La commission annuelle de coordination a duré 2 jours et se termine sous les meilleurs auspices. Les représentants du CIO ont multiplié les rencontres et les visites des sites qui accueilleront les épreuves. Nawal El Moutawakel, vice-présidente du CIO et membre de la commission de coordination des JOJ 2026, ne cache pas sa satisfaction.
Nous sommes heureux de voir que le comité d'organisation local est sur une très très bonne trajectoire.
Elle a aussi listé les nombreux autres éléments sur lesquels il faudra désormais travailler.
Tout va devenir concret avec, dans les prochains mois, le lancement du programme des volontaires, de la billetterie, la présentation du poster officiel et la chanson officielle, ainsi que la médaille, la mascotte, les uniformes, le relais de la flamme. Et j'ai l'impression que nous y sommes presque.
Mais pas question de se reposer sur ses lauriers, insiste Ibrahim Awad, coordinateur général du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.
Ça fait plaisir, mais c'est à la fois aussi un motif d'encouragement à aller encore plus de l'avant, à continuer dans la dynamique, à poursuivre le travail, mais surtout à accélérer, parce que nous sommes maintenant en plein dans le processus qui nous mènera vraiment à la livraison des Jeux.
Une dernière ligne droite qui verra aussi s'étoffer les équipes de Dakar 2026. Elles passeront de 77 personnes actuellement à plus de 330 dans les prochains mois. Gwenda Lavina, Dakar, RFI.
Et nous quittons le Sénégal pour la Tanzanie. C'est la plus grande île lacustre d'Afrique. Ukerewe, 500 km² de terre dans les eaux du lac Victoria, située à une 50 km de la ville tanzanienne de Mwanza. Cette ville est connue pour ses pêcheurs, mais ces derniers voient leur quotidien menacé par une diminution des stocks de poissons dans le lac, en cause des pratiques de pêche inadaptées, mais aussi les effets dévastateurs du changement climatique. C'est un reportage d'Elodie Goulet.
Samaki, le poisson en swahili, est désormais bien difficile à trouver dans les eaux entourant Ukerewe. Pambanu Boniface, pêcheur sur le lac Victoria depuis 15 ans, voit ses filets remonter de plus en plus vides.
Vous quittez la maison et naviguez pendant plus de 6 heures à la recherche de poissons. Vous partez 3 ou 4 jours et il n'est même pas sûr que vous en trouviez. Vous pouvez partir pendant des heures et revenir avec seulement 2 kilos de poissons, ou parfois rien du tout.
L'économie de l'île dépend principalement de la pêche, alors certains pêcheurs comme Damien Simon et ses collègues s'essaient à la pisciculture.
C'est quelque chose de nouveau que nous ne faisions pas dans le passé. On pêchait normalement dans le lac, mais nous avons commencé à cause du manque de poissons.
Tous ne peuvent se permettre ces techniques car le coût de mise en place reste élevé et le gouvernement, même s'il promeut ces méthodes, n'offre pas d'aide au financement. Certains tentent donc de se tourner vers d'autres activités comme l'agriculture, mais ils font face à des défis similaires, comme l'explique Joyce Comagna de l'organisation Centre juridique et des droits de l'homme à Dar es Salaam.
Ils pensent que de passer de la pêche à l'agriculture peut les aider, mais en réalité, les agriculteurs ont eux aussi leurs propres problèmes liés au changement climatique.
Le changement climatique, c'est l'une des causes majeures de ce manque de poissons. Les pluies sont de plus en plus rares, mais les épisodes pluvieux, eux, sont de plus en plus intenses, provoquant notamment une montée des eaux du lac. À cela s'ajoutent des techniques de pêche inadaptées avec des filets qui capturent même les plus petits poissons qui n'ont pas le temps de se reproduire. Pour Pambano Boniface, le futur est incertain.
Je vois un avenir difficile. Si notre présent est rude, le futur le sera bien plus.
En 2024, le niveau des eaux du lac Victoria est supérieur à toutes les années records enregistrées depuis 1992. Elodie Goulesque, Okerewe, RFI.
Demain, samedi, à Abidjan, la comédienne ivoirienne Laetitia Azzi met en scène Paroles de femmes, nous sommes au théâtre. Cette pièce est portée par deux comédiennes et deux musiciennes. Tout cela sous forme de deux récits au dénouement tragique. Et notre correspondante à Abidjan, Marine Janin, a assisté aux répétitions. Voici son reportage.
La pièce est née d'un texte de l'écrivaine gabonaise Edna Mere Apinda, adapté pour le public ivoirien avec de nombreuses références locales.
Nous nous sommes rendus compte que nous venons de la même vie.
Tu dis quoi ?
Poiflé !
Non.
La metteuse en scène a choisi deux nouvelles, Il pleut sur la ville, une histoire d'amour qui finit par un deuil, incarnée par la comédienne Rebecca Kwasi.
Le ciel semble aussi triste que moi. Je me dis qu'il s'est emparé de mon deuil et l'a fait si.
Et la vie d'une autre qui évoque la stérilité, le mariage et l'infidélité, portée cette fois par Laetitia Azzi elle-même.
Comment annoncer la nouvelle à Djebi ? Comment le dire à ma mère ? Comment vivre après cela ?
Les monologues sont accompagnés par la musique du violoncelle et de la cora qui amplifient l'émotion du rire aux larmes. C'est justement la valeur cathartique de la pièce qui a séduit Rebecca Kwasi, explique-t-elle après la répétition.
Je dis des choses que des personnes ressentent mais n'osent pas en parler en fait. Je dis à toutes ces personnes au travers de cette prestation que souvent on ressent des choses, on a des émotions, on passe par beaucoup de choses, mais c'est mieux d'en parler que garder ça pour soi. En vrai, ça libère, c'est une vraie thérapie.
Et pour conserver cette ambiance intimiste, la représentation se tiendra en petit comité avec un public limité à une centaine de spectateurs. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Paroles de femmes à voir demain à Abidjan. C'était un reportage de Marine Janin. C'est sans doute la plus belle voix du jazz tchadien depuis bientôt 30 ans et ses débuts dans le légendaire groupe d'afro-rock Tibesti. Abdoulaye Derget mêle les chants traditionnels de son pays aux sonorités du jazz moderne. Après le succès de L'âme du blues coédité par RFI Talent, c'était en 2022, il est venu présenter sa nouvelle formation Abdoulaye Band, composée pour moitié de musiciens français, pour l'autre de musiciens tchadiens, sur la scène de l'Institut français de N'Djamena. Carole Valade l'a rencontré.
J'ai commencé à chanter très petit, donc j'aime chanter tout ce que j'écoute et j'ai tout, pratiquement tout chanté. Et c'est à partir de là que j'ai dit, il y a une possibilité de sortir une musique, un style de chant typique du Tchad et le présenter au monde.
Comment ça ?
Le blues gouran qui est très 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 apparenté au blues américain. Et quand ça se chante, c'est... Et le gana de Tréhidon, Tiragata Kandahidon, Tiragita Kinamra Tairon, Eskidai Taironangri, Tairon, Wazitairon. Donc c'est très proche du blues américain et c'est pas connu. Et même le style de chant de deuil du Tchad, qu'on appelle le chant de deuil des cantatrices gold. Dile, Mangole Bangale, Mangole Bamangana, Rune, Wen, de Noué, Aïe, Rolo Kamadje, Gonouyo, Aïe. Ça, c'est aussi le chant du Sud. mais c'est des chants de deuil. Et j'ai dit, c'est des choses qui ne sont pas connues du Tchad.
Donc vous avez fait un vrai travail d'archéologie musicale, en fait.
Exact. En écoutant les autres frères, les Maliens, les Sénégalais, ils sont partis puiser dans le répertoire ancestral et on doit promouvoir ça pour qu'on puisse reconnaître au Tchad aussi des valeurs artistiques.
C'est quoi votre conseil justement aux jeunes musiciens tchadiens ?
Aux jeunes musiciens tchadiens, il faut chercher l'originalité. Ici, je crois qu'il y a une tendance à la facilité, à la musique virtuelle, donc informatique, rapidement, on fait 2 beats, 3 beats, hein. On copie le Nigeria, on copie le Cameroun, on copie le Congo, et ça se met sur le marché. Je crois que c'est une destruction. C'est une destruction du métier, de l'artiste, de l'instrumentiste, et puis aussi de notre culture un peu. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait un rond et on le mettait dans un carré. Ça peut entrer, mais ça laisse des trous.
Et qu'est-ce que vous souhaitez pour la musique tchadienne ?
Le primordial, c'est l'État. Et si l'État ne fait pas un effort, je crois que ça, on va à contre-courant. C'est pas bon. La culture, c'est ce qu'il y a de plus beau dans un pays. C'est ce qui apporte une lumière fleurie. C'est ce qui donne envie de visiter un pays. C'est la culture. Si on ne veut pas mettre la culture en avant, on va toujours rester dans le noir.
جدودنا خلوا لنا ورثة، الورثة خلوا لنا دا وثقافة، من شمال لجنوب، من سبع للخريب، وكلنا كلا من جينا جمينا.
La belle voix du jazzman tchadien Abdoulaye Derguette. Et puis, puisqu'on parle de musique, ne manquez surtout pas ce samedi sur RFI l'émission L'épopée des musiques noires de Joe Farmer à 14h30, heure de Paris. Il rendra hommage à Quincy Jones, considéré comme une légende de la musique et un monument. Il nous a quittés dimanche à Los Angeles. Il avait 91 ans et vous l'entendrez au micro de Joe Farmer au Festival de Jazz de Montreux en 2017. On écoute tout de suite Stuff Like That.
We'll be right back.
Et voilà qui nous permet d'échauffer Jérôme Bastion qui vous attend pour la prochaine édition. Merci de nous avoir suivis à la réalisation, Alice Ménard. Merci également à Alexis Guilleux, Guillaume Bédrane. Toute l'équipe d'Afrique Soir vous salue bien sur RFI.